Rudyard Kipling, Par le feu. Le gendarme chevauchait à travers la forêt de l'Himalaya, sous les chênes revêtus de mousse, et son ordonnance trottait à côté de lui. « C'est une vilaine affaire, Bersing, » dit le gendarme. « Où sont-ils ?»« Oh, c'est une très vilaine affaire, » dit Bersing. « Mais quant à ce qui est d'eux, ils doivent être à 7 heures en train de rôtir, dans un feu plus ardent qu'on n'en fit jamais avec des branches de sapin. »« Espérons que non, Bersing, » reprit le gendarme. Car laissant à part la différence des races, c'est tout à fait l'histoire de Francesca di Rimini. Bersing ignorait tout de Francesca di Rimini, en sorte qu'il resta quoi jusqu'au moment où ils arrivèrent à la clairière des charbonniers, où les flammes expirantes faisaient pfft, pfft, pfft en papillotant sur les cendres blanchies. Ça avait dû être un grand feu quand il brûlait en plein. De Dongapa, par-delà la vallée, on l'avait vu s'élever flamber dans la nuit, et on avait dit que les charbonniers de Codru étaient sous. Mais c'était seulement Sukhet Singh, sipaï du 102e régiment d'infanterie indigène du Pendjab, et attira une femme qui brûlait, brûlait, brûlait. Voici comment les choses se passèrent, et le journal de la gendarmerie est là pour confirmer mon récit. Attira était la femme de Madhu, lequel était charbonnier, borgne et de mauvais caractère. Une semaine après leur mariage, il battait Attira avec un gros bâton. Un mois plus tard, Sunil Singh, Sipai, arriva par là, envoyé en congé de son régiment, à la fraîcheur des montagnes, et il électrisa les habitants du village de Codru en leur contant ses glorieux états de service sous les ordres du gouvernement, et comme quoi le colonel Sahib Bahadur le tenait en grand honneur, lui, Sukhet Singh. Et Desdemone écouta Othello à la façon de toutes les Desdemones du monde, et en écoutant, elle se prit à l'aimer. « J'ai une femme à moi, » dit Sukhet Singh, « mais c'est pas une affaire quand on vient à y réfléchir. Dans un moment, je serai forcé de retourner à mon régiment. Je peux pas me laisser porter déserteur, car je compte devenir Havildar. Il n'y a pas de version himalayenne du « je ne t'aimerais pas autant, bien-aimé, si je n'aimais l'honneur encore plus. » Mais il s'en fallut de peu que Sukhet Singh créa cette version. « Ne t'en fais pas, » répondit Attira, « reste avec moi. Et si Madhu essaye de me battre, tu le battras. »« Fort bien, » dit Sukhet Singh. Et il battit Madhu solidement, au grand plaisir de tous les charbonniers de Codru. « Oh, voilà assez, » dit Sukhet Singh, en faisant rouler Madhu à bas de sa hauteur. « À présent, nous avons la paix. » Mais Madhu regrimpa la pente herbue et vint rôder autour de la cabane avec des yeux irrités. « Il finira par me tuer, » dit Attira à Sunil, « il faut m'emmener. »« Bah oui, mais cela fera du grabuge à la caserne. Ma femme me tirera la barbe, mais tant pis, » dit Sukhet, « je t'emmènerai. » Il eut un grabuge sérieux à la caserne. Et la barbe de Sukhet Singh fut tirée, et la femme de Sukhet Singh s'en alla vivre chez sa mère et emmena les enfants. « C'est très bien, » dit Attira. « Oui, c'est très bien, » répondit Sukhet Singh. Madhu reste donc seul dans la cabane qui regarde par-dessus la vallée vers Dongapa. Et depuis le commencement des siècles, personne n'a jamais eu de pitié pour des maris aussi malheureux que Madhu. Il s'en alla trouver Hussein Dazé, le sorcier, qui possède la tête de singe qui parle. « Fais revenir ma femme, » lui dit Madhu. « Je peux pas, » répondit Hussein Dazé, « tant que tu n'auras pas fait remonter le Sutlej qui est dans la vallée, jusque sur le col de Dongapa. » « Non, pas de devinette, » dit Madhu. Il brandit sa hache par-dessus la tête blanche de Lucendaze. Eh bien, donne tout ton argent aux anciens du village, reprit Lucendaze. Ils tiendront un conseil communal, et ce conseil enverra un messager à ta femme, lui disant qu'elle doit revenir. Madhu donna donc toute sa richesse en ce monde, s'élevant à 27 roupies, 8 annas, 3 piques et une chaîne d'argent au conseil de Kovar. Et il en advint comme Lucendaze l'avait prévu. On envoya le frère d'Aïra dans la plaine au régiment de Sal Singh pour appeler Aïra au logis. Une première fois, Sal Singh reconduisit le frère à coups de pied dans le derrière à travers des casernes et puis le remit au Hadivar qui le battit à coups de ceinturon. Reviens, piaulait le frère d'Aïra. Mais où ça ? Demandait Aïra. Mais chez Madhu, répondit-il. Jamais, déclara-t-elle. Alors Lucendaze va t'envoyer une malédiction, et tu te flétriras comme un arbre écorcé au printemps, reprit le frère d'Atmira. Atira dormit par là-dessus. Le lendemain, elle avait la migraine. Oh, je commence à me flétrir comme un arbre écorcé au printemps, dit-elle. C'est la malédiction de Lucendaze. Et elle commença réellement à se flétrir, parce que son cœur était desséché de peur, et que ceux qui croient aux malédictions meurent des malédictions. Ce Kessing, lui aussi, avait peur, parce qu'il aimait Atira mieux que sa propre vie. 2 mois passèrent, et le frère d'Atira vint se poster en dehors du quartier régimentaire, et braya. « Ah ah ! Tu es en train de te flétrir ! Reviens !»« Je vais revenir, » dit Atira. « Dis plutôt que nous allons revenir, » dit Sukhet Singh. « Ouais, mais quand ?» dit le frère d'Atira. « Un jour, le matin de très bonne heure, » dit Sukhet Singh. Il s'en alla demander une semaine de permission au colonel Chibbahadur. Bon, « je me flétris comme un arbre écorcé au printemps, » se lamentait Atira. « Bon, tu iras mieux bientôt, » dit Sukhet Singh. Et il lui révéla son intention. Et tous deux se mirent à rire, tous en bas ensemble, car ils s'aimaient. Mais à partir de cette heure, Atira commença d'aller mieux. Ils s'en allèrent à eux deux, voyageant par le train en 3e classe, comme l'autorisaient les règlements, et puis en charrette jusqu'aux montagnes basses, et de là à pied jusqu'aux montagnes hautes. Atira flairait l'auteur des pins de ces montagnes, les humides montagnes de l'Himalaya. « C'est bon d'être en vie, » dit Atira. « Pouh !» fit ce Kessing. « Où est la route de Kodru et où est la maison forestière ?» « Je l'ai payé 40 roupies il y a 12 ans, » répondit le forestier à Sonevard en lui tendant le fusil. « En voilà 20, » dit Sotet, « et tu devras me donner la meilleure cartouche. »« C'est très bon d'être en vie, » disait Aïra, flairant ardemment l'odeur du terreau de pin. Et ils attendirent que la nuit fût tombée sur Kodru et sur le Dongapa. Madhu avait empilé sur le contrefort dominant sa cabane la meule de bois sec destinée à faire du charbon le lendemain. « Madhu a eu la politesse de nous épargner cette peine, » dit Sonessing, en butant contre la meule qui avait 12 pieds de côté et 4 de haut. « Il nous faut attendre que la lune se lève. » Quand la lune se leva, Atira s'agenouilla sur la meule. Si au moins c'était un Snyder du gouvernement, dit à regret Stern Singh, en louchant sur le fusil de forestier, dont le canon était renforcé de fil de fer. Fais vite, dit Atira. Et ce Kessing fit vite. et Attira perdit à jamais sa vivacité. Puis il alluma la meule aux quatre coins, monta dessus et rechargea l'arme. Les petites flammes commencèrent à pointer entre les grosses bûches au-dessus des fagots. Le gouvernement devrait nous enseigner à presser la détente avec nos doigts de pied, dit sarcastiquement Sekelsing à sa lune. Telle fut la dernière phrase prononcée en public par le sipaï Sekelsing. Au jour, le matin de très bonne heure, Madhu, en arrivant, vit le bûcher. Il poussa des cris de détresse et courut vite rattraper le gendarme qui faisait sa tournée dans le district. « Ce manant-là m'a gâché pour 4 roupies de bois à charbon, » lui dit Madhu, tout haletant. « Il a de plus tué ma femme, qui a laissé une lettre, que je ne sais pas lire, liée à une branche de pin. » De l'écriture raide et artificielle qu'on enseigne dans les écoles de régiment, le sipaï Sekelsing avait écrit « S'il reste quelque chose de nous, que l'on nous brûle ensemble, car nous avons fait les prières nécessaires. Nous avons également maudit Madhu et Mayak, frère d'Attira, des méchants tous les deux. Présentez mes hommages au colonel Sahib Bahadur. » Le gendarme examina longuement et minutieusement le lit nuptial de cendres rouges et blanches sur lequel reposait, d'un noir mat, le canon du fusil du forestier. Distraitement, il donna un coup de son talon à éperon dans une bûche à demi consumée, et les étincelles pétillantes s'envolèrent au ciel. « Des gens bien singuliers, » dit le gendarme. « Fouf, 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 » firent les petites flammes. Le gendarme consigna dans son journal la substance de l'affaire, réduite à ses éléments, car le gouvernement du Pendjab n'encourage pas les fioritures romanesques. « Mais, » demanda Madhu, « qui est-ce qui va me rembourser ces 4 roupies ?»